pas de monnaie sans souveraineté. La monnaie est elle-même une forme de souveraineté dans l'espace de la valeur économique. Elle est liée à une souveraineté plus fondamentale qui est la souveraineté politique. Il n'existe pas de souveraineté universelle. Donc il n'existe pas de monnaie internationale. Il n'existe pas non plus, comme on le voit, de coordination, entre les puissances publiques nationales pour faire apparaître ce genre de choses. Donc ça pose évidemment un problème. Alors le marché, est-ce qu'il pourrait le faire? Non, évidemment. La liquidité est l'acceptabilité commune, unanime. Ça veut dire que la liquidité est un bien public. Qu'est-ce que ça voudrait dire que le marché puisse partager de manière équitable cette liquidité que tout le monde veut et que tout le monde veut de manière unanime entre deux ou plusieurs biens publics? Vous voyez que ça n'a pas de sens. Le marché ne peut pas mettre de prix sur des biens publics. C'est par nature ce qui échappe au marché. En conséquence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si deux monnaies, deux devises, de monnaie nationale, qui deviennent donc des devises lorsqu'elles sont dans l'espace international, qui n'est plus leur espace de souveraineté, si elles sont candidates pour cette fameuse liquidité ultime nécessaire au fonctionnement des relations internationales, ou bien il y en a une qui va chasser l'autre complètement, elle va s'imposer, ou bien elles sont indistinguables, c'est la même. Cette idée qu'il peut y avoir tout un ensemble de monnaies convertibles les unes avec les autres, qui ont le même pouvoir d'achat, puisque la liquidité, ce qui est important, c'est son pouvoir d'achat sur l'ensemble des biens, de telle manière qu'elles se partagent en fonction des quantités, qu'elles représentent, c'est-à-dire des quantités du PIB de chaque pays. Ça n'a pas de sens, hein, je veux dire. Ça serait un monde dans lequel toutes les monnaies seraient convertibles et un monde dans lequel elles auraient toutes le même pouvoir d'achat. Il y aurait parité de pouvoir d'achat. Ce monde-là n'a jamais existé et ne peut pas exister, c'est-à-dire la monnaie comme puissance collective. Donc, qu'est-ce qui doit se passer? Il doit se passer d'autres choses. Alors, l'euro, c'est quoi là-dedans? L'euro, c'est quelque chose en effet de particulier, parce que l'euro a un système de paiement, a une entité souveraine au plan monétaire, qui est la Banque Centrale Européenne, alors que toutes les unions monétaires du passé n'étaient pas ça. C'était des unions au sens où on établissait des liens très, très étroits avec convertibilité réciproque de monnaie nationale qui était conservée. Donc l'euro a quelque chose de plus que... elle a un potentiel de devenir une monnaie pleinement souveraine. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui de l'évolution de la zone euro. Ça ne la transformerait pas en monnaie universelle. Vous voyez le problème. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est... vraiment difficile, oui. C'est la notion de devise clé. Alors, la notion de devise clé résulte de ça, quoi. C'est-à-dire, le marché ne peut pas la faire apparaître. Comment elle va apparaître? C'est là que vous voyez bien que les rapports économiques, au niveau international en particulier, sont complètement englobés par des rapports qui sont de puissance militaire, de puissance politique... système de liens qui existent entre les nations, les États, et qui vont dominer les relations économiques. N'oubliez pas la maxime britannique à l'occasion de la grande période de l'expansion britannique, trade follow the flag. C'est the flag qui est principal. Les marchés sont créés par les puissances publiques, sont créés par les États, sont créés par le processus d'expansion qui, lui, fait partie de la recherche de puissance. Et ce n'est pas par hasard. Car qu'est-ce que donne la liquidité comme mode d'appropriation? La seconde caractéristique, la monnaie est donc protection collective et mode d'appropriation. Un mode d'appropriation n'a pas de limite. C'est-à-dire, contrairement à la conception qu'on peut avoir de la valeur des biens qui sont limités par leur utilité, qui sont limités par leur saturation, qui sont limités par tout ce que vous voulez, la monnaie étant recherche de puissance n'a aucune limite. D'où la nécessité d'une acceptabilité commune qui va faire protection dans les situations de crise. Et donc, ce qui va se passer, c'est un processus historique qui, dans la mesure où il dégage le capitalisme, est essentiellement faire de l'argent avec l'argent. Donc le capitalisme est essentiellement l'inégalité, producteur de domination sur autrui. C'est ça, la nature même de la concurrence capitaliste. Elle va faire émerger, en effet, dans des espaces nationaux qui font cohérence, parce qu'elles ont une monnaie nationale, ben, elles projettent cette monnaie supérieure, parce que ce capitalisme est supérieur dans une période historique, et la devise clé est liée à l'hégémonie d'une puissance politique. Ça a toujours été ça, ça ne peut pas être autrement. Mais le point intéressant, c'est que dans la mesure où l'acceptabilité de la liquidité est unanime, elle se reproduit dans le temps, dans la mesure où elle fait protection. Et en conséquence, là, ce qui va se passer, c'est que la devise clé peut rester avec une très très forte inertie et va créer justement des tensions, car elle reste avec une très forte inertie, alors que la puissance hégémonique peut se dégrader, être concurrencée par d'autres dans certaines périodes. Donc vous avez, si vous voulez, l'épanouissement d'une devise clé et puis la période de son déclin. Mais la période de son déclin maintient sa présence, d'où la question évidemment des dysfonctionnements qui découlent de l'existence d'une devise clé alors que la puissance hégémonique décline. Et donc je vous donne ici, on n'a eu que deux devises clés depuis le début de l'expansion de l'âge classique du capitalisme, c'est-à-dire les années 1830-1840. Hein, la livre sterling et le dollar, alors que bien d'autres puissances ont émergé, bien d'autres puissances industrielles ont émergé. Et donc, quels sont les principes qui valident une devise clé à ces différentes époques? Eh bien, comme l'a dit André, ce qui est fondamental derrière, ce sont des idées collectives, des notions collectives très profondes, des idéologies, comme on peut dire, qui sont issues évidemment du processus de développement hégémonique dans le cadre de l'expansion du capitalisme, mais qui, disons, font cohérence à un moment donné. Et la période de l'âge classique du capitalisme, qu'on appelle l'ordre naturel, c'est-à-dire, ou d'autres l'appellent société bourgeoise, c'est un ordre dans lequel la propriété est le principe fondamental. La propriété privée est un principe dominant, qu'il est une éthique supérieure, si vous voulez, à ce qu'on appelle ensuite, aujourd'hui, ensuite au XXe siècle, le bien-être social. Le bien-être du XIXe siècle, c'est la classe bourgeoise, et exclusivement la classe bourgeoise, bien sûr, qui est la classe des propriétaires. Et donc, vous avez à ce moment-là cette notion essentielle que la monnaie dominante est celle de la puissance dominante dans cet ordre, c'est-à-dire la Grande-Bretagne. Mais le point intéressant, c'est que qu'est-ce qui va faire cohérence? Pourquoi elle s'impose comme devise clé? C'est comme ça. Mais comment elle est reconnue ensuite de manière légitime par la convertibilité or? Et donc, il y a quelque chose de tout à fait intéressant, l'or, qui est justement monétisé par la vertu du politique. L'or n'a aucune raison d'être politique plutôt que n'importe quel autre métal. Il l'est par le fait que s'est développée historiquement cette convertibilité or. Mais à partir du moment où elle existe, il y a quelque chose de tout à fait intéressant pour la coordination du système, c'est que l'or n'est la dette d'aucun pays. C'est-à-dire qu'on ne peut pas manipuler les réserves d'or, elles viennent de l'extérieur. Elles viennent de la monétisation de ce qu'on a gagné. Ce qui entraîne pour le pays créateur de la devise clé une contrainte générale dans les relations internationales, en quelque sorte une relation de bouclage qui a permis la cohérence de cette époque. Et le taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre était bien le taux directeur qui, si vous voulez, dirigeait complètement l'évolution mondiale de la monnaie, dirigeait l'orchestre mondial, si vous voulez, des relations monétaires. Mais le taux de la Banque d'Angleterre dépendait lui-même d'un minimum de réserves que l'Angleterre devait conserver et qui elle-même était liée au commerce international, puisque tout le commerce international passait par la lettre de change en livre sterling. Donc, vous aviez une cohérence qui était une cohérence de ce type. Évidemment, à partir du moment où le pays hégémonique décline, cette cohérence, se fragilise. Et l'énorme erreur anglaise de l'après-première guerre mondiale, c'est d'avoir voulu revenir à l'ordre du passé. cette incapacité des conceptions, si vous voulez, d'équilibristes, si j'ose dire, hein, à la fois économique et politique, de penser le mouvement historique, fait qu'on croit toujours qu'on peut revenir au passé comme étant un point fixe, un Eldorado, un équilibre général, etc. Et la tentative de rétablir l'état laor en 1926 a été un désastre absolu, qui est un des éléments essentiels qui a mené à la Grande Dépression. Donc l'état laor et ses limites à partir du moment où apparaît la puissance américaine, où apparaît la puissance allemande, qui sont des empires qui s'opposent à l'hégémonie anglaise. Ça, ça indique le fait que quand vous avez un système monétaire qui fonctionne du point de vue de la cohérence des monnaies, ça n'empêche pas des périodes d'énormes expansions et des périodes d'énormes déflations, comme vous le voyez à travers la grande crise de la première globalisation en celle justement de l'hégémonie anglaise. Alors, le deuxième cas de système monétaire intéressant, c'est le système de Bretton Woods. Alors là, il y a quelque chose de tout à fait intéressant, puisque vous avez un système qui est institutionnalisé. C'est la première fois que la communauté humaine dans son ensemble établit une institution internationale qui est un système d'interaction sous une devise clé, mais dans le cadre de règles institutionnalisées et définies par accord, qui est l'accord de Bretton Woods. Alors, ça paraissait formidable. Sauf que la puissance américaine va se dégager des accords. L'accord établissait, a priori, toujours un certain lien avec l'or. Ce lien, évidemment, l'énormité de la puissance américaine de l'après-guerre l'a balancé totalement. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la contrainte de bouclage n'existait plus. L'émission de monnaie par les États-Unis sont devenues totalement liées exclusivement lié à la politique, aux besoins intérieurs des États-Unis ou aux besoins internationaux de son expansion en tant que puissance dominante. Et le résultat, eh bien, ça a été évidemment qu'il n'y a eu plus aucune adéquation entre les besoins de monnaie internationale dollar et son offre, qui dépendait uniquement de la... Vous n'avez plus le bouclage qu'il y avait dans les talons or, puisque les Américains ont refusé totalement en toute convertibilité des réserves en dollars des autres banques centrales en or. C'est ce qu'on a appelé, si vous voulez, le privilège exorbitant que De Gaulle avait mis en évidence dans les années... Enfin, c'était Rueff qui lui avait dit, mais il lui avait soufflé. Mais De Gaulle en avait fait quelque chose d'officiel, le privilège exorbitant. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ben, un dérèglement. Et le dérèglement, il est là. Le bien inflationniste, la grande crise de la fin des années 60, des années 70 qui en découle. Les Américains, pour développer leur puissance, font deux choses en même temps dans la seconde partie des années 60. La guerre du Vietnam et le projet de grande société de Lyndon Johnson. Ça entraîne évidemment des dépenses gigantesques massivement monétisées, et un déficit de la balance des paiements. Le résultat, vous le voyez ici, c'était que l'émission monétaire américaine se transmet dans le reste du monde par l'intermédiaire d'échanges fixes. Les autres pays ne peuvent pas dévaluer leur monnaie, ni la réévaluer. Et à travers, évidemment, le commerce américain et l'expansion financière des grandes entreprises américaines qui est à cette époque. Et le résultat, vous avez inflation généralisée, puisque la masse monétaire s'accroît avec une très forte corrélation partout, et ça vous mène au dérèglement qui commence à partir de 1967, c'est-à-dire la dévaluation de la livre, et va jusqu'au coup de force de Nixon, où Nixon dit, ben, moi je m'assois dessus, les accords de Bretton Woods, j'en ai rien à faire, et bien le 15 août 1971, je décide que Bretton Woods c'est terminé. Donc, vous voyez ce que ça veut dire, là, ce que c'est qu'une puissance hégémonique et ses éléments. Et qu'est-ce qui se passe après? Ben, il y a une tentative de retrouver un système monétaire qui échoue très évidemment, opposition totale entre les États-Unis et l'Allemagne, notamment sur cette question de qui doit être responsable de l'inflation. Et on aboutit à quelque chose qui est ce que j'appelle moi le semi-dollar standard, c'est-à-dire un système sans règles, légitimé comme tel, à l'accord de la Jamaïque de 1976, mais sans règles quand même, et dans lequel ce que vous avez, c'est un certain nombre de monnaies convertibles, liberté d'échange, capitaux, et la plupart des monnaies du monde comme des monnaies qui sont accrochées au dollar d'un point de vue formelle, c'est-à-dire du point de vue de leurs unités de compte, donc du point de vue de la valeur, mais en même temps qui essayent de s'en protéger par des contrôles de capitaux de différentes natures. Et on est dans ce système. Et est-ce que c'est un système puisqu'il n'y a pas de règles? Ça pourrait en être un si ça avait comme résultat de fonctionner quand même, c'est-à-dire de maintenir une certaine stabilité des prix dans le commerce international grâce à une certaine stabilité d'échange pour éviter l'incertitude et aussi faire en sorte que les balances des paiements aient un certain équilibre. Pas un équilibre comptable, un équilibre intertemporel, si vous voulez, mais qu'il n'y ait pas des déséquilibres cumulatifs. Eh bien, c'est justement pas ça qui se passe. Ce que vous voyez qui est extraordinaire, c'est le double déséquilibre massif qui est celui d'échange, c'est le graphique de gauche, et c'est en termes réels effectifs, c'est-à-dire c'est un taux de change pondéré du dollar et des autres monnaies qui sont indiquées ici, c'est-à-dire l'euro, le yen, vis-à-vis de tous ses concurrents, est défalqué par les prix. Donc ça décrit la compétitivité. Et voyez à quel point la compétitivité dans l'économie mondiale a été déstabilisée. Vous avez des mouvements du dollar qui atteignent 40% en termes réels effectifs, hein, montée, baissante, des grands cycles. Hein, vous voyez la courbe. Hein. Actuellement, on est de nouveau sur un grand cycle d'appréciation. Et tout cela sur une tendance d'affaiblissement du dollar sur très longue période, ce qui prouve bien que la liquidité n'a rien à voir finalement, c'est-à-dire qu'elle se maintient malgré l'érosion de la force économique. Le dollar en termes de pouvoir d'achat réel perd 40% de sa valeur en 45-50 ans et pourtant il est maintenu, et vous voyez, dans un déséquilibre gigantesque des balances des paiements. Donc c'est un système qui... Alors ce système fonctionnait pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de candidat. Un principe de devise clé, encore une fois, se maintient malgré les déséquilibres qu'il engendre, lorsqu'il n'a pas de règles. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous aboutissons aujourd'hui à des forces de déstabilisation beaucoup plus importantes qui sont essentiellement liées à la montée d'États continents qui ne sont plus dans l'orbite américaine et qui posent évidemment le problème du 21e siècle, c'est-à-dire le problème de dépasser le modèle de devise clé, car il n'y aura pas d'autres hégémones, hein, dépasser le modèle de devise clé dans le cadre d'un système multilatéral dans lequel implique évidemment le retour d'une forme universelle de liquidité, ce qui prouve bien que c'est le monde d'aujourd'hui. Hein. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde dans lequel les biens publics reprennent une importance fondamentale et qui implique par conséquent quelque chose d'universel qui apparaisse au niveau politique et qui est la grande interrogation des prochaines décennies.